c'est Patrick Dabas. Venez donc prendre l'air avec les ailes anciennes. Je vous y invite sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse.
Bonjour à tous. Toujours en circulant dans les rues de Toulouse, ou plutôt en essayant de s'extraire du centre, on peut arriver dans le quartier de la Roseraie et emprunter une large avenue. C'est l'avenue Yves Bruneau. Ce nom est forcément familier à certains, mais je pense que pour beaucoup, il n'évoque personne de bien précis. Mais aujourd'hui, je vous emmène surtout à Colomiers. Colomiers a, elle aussi, donné ce nom à une de ses rues. Cette rue est celle qui longe le domaine aéronautique au bord des pistes, notamment pour les connaisseurs de l'aéroport toulousain, et présente une entrée au site que tout le monde connaît sous le nom de site Breguet. Oui, et alors, me direz-vous, quel rapport ? J'y arrive. Yves Bruneau a été un extraordinaire pilote d'essai, et précisément, en tant que tel, pilote d'essai d'un des plus grands constructeurs, ingénieurs et industriels du siècle dernier, qui a donné son nom au Breguet 19 et notamment à celui de Dieudonné Coste, qui a fait la première traversée de l'Atlantique d'est en ouest avec Maurice Bellonte, puis à beaucoup d'autres, jusqu'à l'avion patrouilleur Breguet Atlantique et bien sûr le populaire Alpha Jet, bien connu du public avec la patrouille de France. Les choses étant ainsi fixées, je reviens à Yves Bruneau. Il est né à Bordeaux en avril 1920. À 20 ans, il sort de l'école de l'air. Nous sommes donc en 1940 et 1940, c'est la guerre. Il est militaire, d'abord navigateur dans le bombardement, puis il en a été pilote. Il a ainsi participé très activement aux campagnes d'Italie, de France et d'Allemagne, notamment sur Maraudère. À la fin de l'hostilité, s'est créé en 1946 l'EPNER. C'est l'école du personnel navigant d'essai et réception qui existe toujours, avec fonction de former les personnels navigants et, outre les ingénieurs navigants, les mécaniciens expérimentateurs ou les contrôleurs et bien entendu les prestigieux pilotes d'essai. Il a pu ainsi se confronter notamment au SE-161 de la SNKZ, conçu par Marcel Bloch. Cet avion avait fait son premier vol en août 1945 et avait logiquement été soumis aux essais du CEV. Par la suite, cet avion deviendra le Languedoc, bien connu à Toulouse. Yves Bruneau s'était également consacré aux essais d'un petit avion très particulier, le SUC, ou SUC-10, baptisé Courlis. C'est un petit avion de tourisme dont le fuselage en forme de parallépipède supporte à l'arrière un moteur propulsif et est prolongé par deux poutres supportant chacune une dérive. Puis, très vite, Yves Bruneau est embauché dans la Société anonyme des ateliers d'aviation Louis Breguet, créée en 1909 et déjà très réputée avant même que Yves Bruneau ne vienne au monde. Songeons que notre homme n'avait que 10 ans lorsque Dieudonné Coste avait déjà accompli ses exploits. La firme Breguet avait une notoriété très importante et son patron, une stature, qui faisait de lui un industriel reconnu et réputé. Entrer chez Breguet était donc une situation tout à fait favorable et avantageuse pour un pilote qualifié, et Breguet n'aura qu'à s'en féliciter tout au long de la carrière de son pilote d'essai. À peine arrivé, Bruneau va se trouver aux commandes d'un avion en cours de construction et d'essai, le Breguet 482. L'appareil est conçu comme un bombardier quadrimoteur à aile haute et bidérive. Les premières études ont lieu dès 1937. Il doit avoir des qualités de vitesse pour la période et de capacité d'emport élevée. Très élégant, il a un nez allongé tout vitré et une jolie ligne fuyante et très fine en queue à l'endroit où les empennages y sont fixés. Le premier vol a lieu en novembre 1947. Dès les premiers essais et les problèmes moteurs surgissent à répétition et difficile à solutionner en pratique. En fait, les premières études sont déjà anciennes, le prototype non terminé avait été caché de l'occupant pendant la guerre et la nécessité de cet avion n'est plus la même. Le projet sera rapidement abandonné. D'ailleurs, chez Breguet, la priorité va maintenant être donnée au B760, le Breguet de pont. Lui aussi étudié avant-guerre, est un espoir certain pour la reprise des transports de passagers et de fret. Yves Bruneau va consacrer tous ses efforts sur cet avion, le mettre au point avec ses équipes, s'illustrer en démonstration et même en sauvetage. Cet avion innové par sa conception en présentant deux niveaux d'étage exploitables, pouvant accueillir au total 100 passagers ou une partie de voyageurs avec au niveau inférieur des marchandises et même si besoin des voitures des voyageurs. Et comme ces déplacements du moins chez Air France qui en achetait 12 comportaient souvent la traversée de la Méditerranée, cette possibilité était très intéressante. Je vous ai parlé de sauvetage, en l'occurrence sauvetage d'un avion accidenté et logiquement condamné. Un briquet de pont d'Air France avait fait un atterrissage forcé dans un champ suite à un problème mécanique et des vibrations importantes. Dans un cas pareil, l'atterrissage se fait sur le ventre, c'est-à-dire sans sortir le train d'atterrissage. Les dégâts sont souvent très importants et surtout la récupération de l'appareil accidenté plus que problématique. Le démembrement est le plus souvent la solution adoptée et avec quelques récupérations de pièces alors que le reste est mis en ferraille. Dans notre cas, l'avion n'était pas trop abîmé. Breguet fut consulté et Bruno alla sur place juger de la situation. Le champ présentait une surface importante et une possibilité de longueur pour imaginer une piste de secours. Dans le meilleur des cas, avec des travaux de terrassement, on pouvait espérer un étroit dégagement de 700 mètres. C'est très court. Bruno réfléchit longuement, mesure, calcule et juge un décollage possible. Bien entendu, il faut préparer une piste de fortune, remettre l'avion sur ses roues et réparer sommairement les dégâts du fuselage, changer les hélices, mais surtout alléger l'avion. Il fallait donc démonter la plupart des aménagements intérieurs, sortir tous les bagages et colis et vidanger le maximum de carburant. Bruno a soigneusement balisé son espace, fixé un repère précis à 365 mètres du point de départ, limite à laquelle l'avion doit absolument s'élever. Sinon, il a juste le temps de s'arrêter, sans dégâts, mais en ayant toutes les chances de s'en sortir indemne. C'est ce qu'il se passa, l'avion a pu décoller et, aucune alarme ne se manifestant, il a même été décidé de rejoindre en vol directement l'usine Breguet, où l'avion fut réparé et remis en ligne par Air France. Le Breguet de pont a marqué son époque et a eu une place très importante dans la vie d'Yves Bruno, et auquel l'avion doit beaucoup dans sa mise au point et son implication pour convaincre les utilisateurs de ses grandes qualités. Il en sera découlé une version militaire. Tous les avions produits par l'usine Breguet, lorsque Bruno en était le premier pilote, sont passés entre les mains de ce brillant pilote d'essai et fin metteur au point. Entre autres, il faut citer le Vulture, un avion curieux pour la marine, afin de pouvoir exercer la surveillance maritime et notamment des sous-marins. Il avait un moteur turbine dans la pointe avant et un petit réacteur à l'arrière. Il a permis d'exploiter ce domaine particulier, cependant, il était très compliqué de le produire et de l'exploiter tel quel. Néanmoins, il a ouvert la route pour ce travail, préalable au fameux Breguet 960, qui aurait pu s'appeler Balbuzard, avant qu'on lui préfère celui d'Alizé. Cet Alizé fait son premier vol en octobre 1956. Il est très réussi et particulièrement efficace. Embarqué sur porte-avions, il a eu une carrière très longue pendant près d'un demi-siècle. L'un d'eux a pu être sauvegardé et on peut encore le voir comme avion de collection dans nombre de meetings. Il a une conception beaucoup plus classique que le Vulture, avec une grosse turbine à l'avant et présente sous son ventre qui le distingue entre autres, un énorme radome qui cache un radar performant. Ce radome est heureusement escamotable car son encombrement ne permettrait pas des atterrissages ou des appontages sur porte-avions. Le Breguet Atlantique, conçu pour faire la patrouille maritime et qui se distingue facilement par son nez vitré, permettant à un observateur d'être en bonne place, aura été malheureusement le dernier avion de Yves Bruno. Lors d'un vol d'essai dans le secteur de Revel, le 19 avril 1962, au cours duquel des procédures exigeantes pour la résistance de la cellule étaient programmées, une rupture provoqua la perte d'une aile et condamna le prototype numéro 2 et l'équipage commandé par Yves Bruno. Il n'y eut aucun rescapé lorsque l'avion s'écrasa. Ainsi disparut ce grand homme, très apprécié par ses collègues, son entreprise et son dirigeant, et tout le monde aéronautique. Fervent catholique, père de 8 enfants dont le testament rendu public a confirmé une grande valeur humaine et auquel son entreprise et ses collègues lui ont rendu un hommage poignant lors d'une cérémonie d'obsèques impressionnante dans un des hangars de Blagnac. Je peux ajouter que les ailes anciennes à Blagnac possèdent et exposent un briquet de pont et analysé du constructeur briquet, ainsi qu'un Alpha Jet.
À la semaine prochaine donc pour d'autres avions et d'autres hommes.
Altitude FM.